Nous allons voir ce matin la parabole des mines. Travaillez plus pour gagner plus. Plus vous travaillerez, plus vous allez gagner de l'argent. Ce matin, en parcourant la parabole des mines, nous allons voir ce que Jésus propose sur gagner, travailler plus pour gagner plus. Cette parabole des mines, on trouve un parallèle dans l'évangile selon Matthieu. Mais dans l'évangile selon Matthieu, cette parabole ne prend pas le même sens parce qu'elle n'est pas inscrite dans le même contexte et les conclusions sont différentes. Donc c'est pourquoi je vous proposerai juste d'étudier cette parabole seule et pas avec la parabole des mines de Matthieu. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Luc était un disciple de Jésus et il a pris un soin particulier à rédiger ce livre pour Théophile afin qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Cette parabole s'inscrit dans le contexte où Jésus explique comment accéder au royaume de Dieu, comment entrer au royaume de Dieu. Et au chapitre 18, Jésus leur dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Quand le royaume de Dieu viendra s'établir réellement, aurez-vous encore la foi ?» Il continuera avec Zachée au chapitre 19, où il va interpeller Zachée, qui est un collecteur d'impôts, et qui n'est pas forcément bien aimé du peuple, parce qu'il était pris pour quelqu'un qui les trahit, j'arrive pas à trouver le mot exact, quelqu'un qui va les trahir, parce qu'il est plutôt du côté romain, pour collecter des impôts, alors qu'il est juif. Et Jésus dira devant la foule, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et à la suite, nous avons la parabole des mines, que je vous propose de lire ensemble. Luc 19, des versets 11 à 27. Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils s'imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fut appelé auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelles affaires ils allaient faire. Le premier se présenta et dit, « Maître, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave. Puisque tu étais digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi de même, tu seras responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Je te craignais en effet, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jurerai sur tes paroles, mauvais esclave. Tu savais que moi, je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque ? À mon arrivée, je l'ai retiré avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Maître, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Une parabole permet d'illustrer une certaine vérité, enfin une vérité plutôt. Et avec une parabole, on va toujours chercher à la transposer avec nous, mais tout n'est pas transposable. Jésus, pour éviter tout malentendu avec ses disciples, va leur dire clairement la raison de la parabole. Ah, j'avais pas... Hop là. Pourquoi ? Comme ils écoutaient cela, pourquoi il leur dit cette parabole ? Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'ils imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. C'est la raison de la parabole. Et sa conclusion ? Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et gorgez-les devant moi. C'est une conclusion assez surprenante de la part de Jésus. On a l'image d'un Jésus qui est venu pour les petits perdus, qui est venu pour les malades, pour les pauvres. Mais il n'est pas venu pour les riches, pour les bien portants. Il est venu pour sauver, et pas pour tuer. Voilà l'image qu'on a de Jésus. Je vais tenter de vous illustrer, de vous expliquer cette parabole, cette conclusion, en m'appuyant sur le texte. Parce que tout texte sorti de son contexte est un prétexte. C'est pourquoi je vous ai donné le contexte au départ. Dieu leur demande de trafiquer. Avant de partir, le maître appelle 10 de ses esclaves et leur donne chacun une mine, en leur disant « Trafiquez jusqu'à ce que je revienne ». À son retour, il appelle ses serviteurs, ses esclaves, et fait une réunion de bilan. Il y a 3 esclaves sur 10 qui sont présents à la réunion de bilan de fin d'année. Et il semblerait que les 7 autres soient partis, et soient partis avec l'argent. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. La participation bénéfice pour le premier sera d'avoir autorité sur 10 villes. Le second, d'avoir autorité sur 5 villes, parce qu'ils ont été dignes de confiance. En revanche, le troisième, il n'aura rien. Et le maître va lui enlever même ce qui lui avait donné, l'argent qu'il lui avait donné au départ. Et les 7 autres, plus personne. Une mine, ça a une valeur à peu près de 100 jours de travail ouvrier. Je dirais que ça a une valeur de 4 mois de travail, en comptant les vacances et les RTT. Et le maître donne 10 mines, donc c'est-à-dire 10 000 jours de travail, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez, 1000 jours de travail sans travailler. Et il leur lance un défi. Il leur donne une partie de ce qu'il a, de ce qui lui appartient. Il leur dit, faites des affaires, trafiquez. Ces gens, qui sont des esclaves, on a serviteurs dans d'autres textes, dans d'autres traductions, ils sont au bénéfice du maître. Ce sont bien souvent quand même pas des notables, s'ils viennent être esclaves et serviteurs, c'est des gens qui sont plutôt pauvres. Et le maître leur donne une chance. Il les honore en leur donnant de l'argent pour le faire fructifier. Le maître prend plaisir en leur donnant ses mines. Et pendant l'absence du maître, ses esclaves, ses serviteurs, jouissent toujours des bienfaits de la maison du maître. Ils doivent toujours s'occuper des affaires du maître. La maison du maître permet encore de les alimenter et de se loger. Les mines représentent vraiment une partie du maître, une partie de sa noblesse. C'est ce qui fait qu'il soit noble, c'est aussi son argent, c'est bien. Et le maître leur donne ce qu'il a, une partie en tout cas. Longtemps après, le maître revient. 7 esclaves sont partis. Ils ont détourné l'argent. Un détournement de fonds. Et comme c'est des mines, on pourrait avoir un détournement de mineurs. Et les 3 esclaves, ils vont être contents. Et le dernier, lui, il n'est pas parti avec l'argent. Non, il est resté là. Mais maintenant, il n'a rien fait. Il ne l'a pas dépensé. Il n'est pas parti. Il n'a rien fait. Le néant. Jésus est content parce que les 2 premiers se sont investis, ont donné de leur temps, se sont impliqués dans une chose que le maître leur avait donnée. Et le troisième, rien. Et ils se sont investis non pas parce qu'ils connaissaient la finalité. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir autorité sur 10 villes ou 5 villes. Non. Ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu faire plaisir. Quand on ne connaît pas la raison et qu'on fait quelque chose, c'est quelque part on aime la personne. Sinon, on a un intérêt derrière ça. Et là, a priori, le texte ne nous présente pas d'intérêt. Ils le font parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont envie de faire plaisir à leur maître. Comment on peut comprendre ça? Vous allez me voir venir. Dans cette parabole, je vais directement vous expliquer les personnages. On peut facilement identifier le maître à Jésus. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Les concitoyens qui n'ont pas voulu que le maître soit roi pourraient dire les personnes qui rejettent Jésus. Et les esclaves, ses serviteurs, on va dire que c'est ses disciples. Et si on continue l'analogie, les enfants de Dieu, ceux qui suivent Jésus. Et Dieu, dans d'autres textes, il nous a pris pour être ses serviteurs, nous, au XXIe siècle. Il nous a donné des dons, des compétences. Si je parlais dans un langage un peu moins chrétien, il nous a donné des dons pour que nous les trafiquions. Et ces dons sont pareils, c'est une partie de son royaume, c'est une partie de lui. Ces dons sont donnés par son esprit qui est aussi Dieu, et qui n'est pas une partie de Jésus, qui est Dieu aussi. Il nous dira, trafiquer, porter du fruit. Dans Éphésiens 4, 11, il va parler des dons, donc il énumère une série de dons. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme pasteurs et maîtres. On peut en ajouter d'autres parce que dans d'autres textes, la liste est plus longue. Le but, c'est afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Un peu plus tôt, au chapitre 2, il dira « Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le but de Dieu, ce n'est pas d'avoir un ensemble de personnes qui le suivent dans une église. Son but, c'est d'avoir un ensemble de personnes qui le suivent et qui grandissent dans la connaissance de Dieu, qui grandissent dans, alors je ne vais pas utiliser le mot, mais qui se sanctifient. Il cherche des personnes qui se rapprochent de plus en plus de lui. Ce n'est pas juste d'avoir des gens qui le connaissent. Quels sont les dons que Dieu vous a donnés, nous a donnés, pour amener l'Église à la stature parfaite du Christ ? Les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'enterrer, mais c'est pour en faire profiter l'Église, pour qu'elle puisse arriver à maturation, à l'état de l'homme adulte. Et l'Église, c'est une communauté, ça ne veut pas être une personne, un groupe de personnes. C'est une communauté qui s'inscrit dans une plus grande structure qui est l'Église universelle, qu'on dira. Et Dieu nous demande de nous investir pour l'Église, pour son royaume, qui ne se dit pas forcément dans cette Église locale. Il dit, prenez part à mon royaume. Je vous encourage à prier, à demander à Dieu de discerner vos dons et de lui demander de vous équiper si vous ne savez, vous les connaissez pas et si vous en voulez d'autres, pas dans le but de vous faire plaisir et de briller, mais dans le but que ça soit utile pour le royaume. Donc, ça sera sûrement des dons qui ne sont pas dans l'Église ou qui compléteront d'autres dons. On donnera à celui qui a, il dira à la fin, mais à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Je pense que Jésus ne parle pas en tant que mathématicien là, parce que l'ensemble vide, ça fait toujours un. Dieu leur parle plutôt pour imaginer le fait que à celui qui s'investit, à celui qui prend part à mon royaume, je le bénirai. C'est ça qu'il veut dire. Il me donne la capacité de le bénir. S'il ne veut pas, je ne pourrai pas le bénir. Dieu ne va pas faire contre notre volonté. J'aime bien l'image qu'il y a un canal entre Dieu et nous. Et c'est nous-mêmes qui régulons ce canal. Est-ce qu'on lui laisse toute la place ou est-ce qu'on réduit ? Et Dieu n'ira pas plus loin qu'on lui donne accès. Quand les serviteurs se mettent à l'œuvre, ça porte du fruit. Dieu les a bénis et leur a donné autorité sur 10 villes, 5 villes. Dieu les a bénis et ils ont grandi dans la connaissance de Jésus. Ils ont découvert que Jésus était encore plus bon qu'ils le pensaient, à mon avis. Parce que juste pour faire trafiquer une mine, il leur donne autorité sur 10 villes ou 5 villes. C'est pas mal. La question que vous allez vous poser et que vous attendez que je réponde, c'est qu'en est-il du troisième ? Le troisième, où se situe-t-il ? Est-ce qu'il fait partie des bons, est-ce qu'il fait partie de la première conclusion ou de la deuxième, à savoir qu'on va l'égorger ? Le texte nous dit, en tout cas, il ne sera pas égorgé. Ce texte-là ne nous dit pas ça. Et pour compléter ce propos, je vous propose le texte dans 1 Corinthiens 3, 12. Que l'on construit sur les fondations de Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je pense que le troisième est dans ce cas-là. Un autre texte des Proverbes nous dira « Appuyez-vous sur l'Éternel, il vous guidera ou pas. Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. » Donc, c'est les œuvres de Dieu qui vont subsister. Ce ne sont pas les nôtres. Dieu attend que nous prenions part à son royaume, dans l'Église universelle. Plus nous allons vivre pour le royaume, plus Dieu nous bénira, autrement dit, on lui donnera possibilité de nous bénir, et il le fera. Et plus nous grandirons dans sa connaissance. Je ne dis pas, non plus, qu'il faut quitter son travail. Je ne dis pas qu'il faut tout lâcher et être missionnaire. Non, ce n'est pas ça que je raconte. Je dis juste qu'il faut qu'on s'occupe plus de Dieu que de nous. Plus de ses œuvres que des nôtres. J'aime bien dire que nous sommes chrétiens et nous ne faisons pas les chrétiens. Donc, c'est de l'être que révèle, que ça vient. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que ma nourriture à moi, c'est de faire l'entière volonté de Dieu? Je ne crois pas. Réfléchissez à votre conduite. Comment ma foi, la grâce que Dieu m'accorde, je peux la mettre en action pour l'édification du corps du Christ? Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est juste. Le maître a été clair pour le troisième. Il a dit au départ, faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Et il n'aurait pas dû être surpris et dire, je te craignais en effet parce que tu es un homme sévère, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Alors si il connaissait Jésus, est-ce qu'il aurait pu dire ça? Ou alors, soit il le connaît, soit il se moque complètement de Jésus en disant ça. Et, à mon sens, il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas bien Jésus en tout cas. Il le connaissait, oui, mais comme il a fait une expérience avec Jésus, à mon avis, il est au bénéfice du royaume, mais il n'a pas voulu en savoir plus. Il n'a pas voulu goûter encore plus l'amour de Dieu. Est-ce qu'il fait qu'il ait une mauvaise image de Jésus? Parce qu'il dira, je savais que tu es un homme sévère. Alors que il est juste, tout simplement. Il avait juste dit se trafiquer. Il a une mauvaise image de Jésus. Et le problème de cette mauvaise image, c'est qu'il va renvoyer une mauvaise image aussi de Jésus. Vous voyez, de lui-même, il y a une mauvaise compréhension, et du coup, quand il va parler de Jésus, il va mal en parler parce qu'il ne le connaît pas très bien. Et s'il parle mal de Jésus, ça peut provoquer des dégâts. Et les ennemis, c'est assez marrant ce passage. Au début, on a l'histoire d'un maître qui s'en va pour se faire couronner roi, et en parallèle, on a des personnes qui vont voir le gouverneur pour que cette personne ne soit pas roi. Et à la fin, Jésus dira, « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi ici et égorgez-les devant moi. » Le roi demande à ses serviteurs d'être fidèles le plus possible, de faire le maximum pour l'écouter. Et les personnes qui ne le veulent pas comme roi, il va les juger. Les personnes qui ne veulent pas se soumettre au roi seront jugées par les lois du royaume. Un tueur en France sera jugé si on le voit. Un délinquant de la route sera jugé si on le voit. Certains, ils risquent, ils le savent, Ils savent à quoi ils risquent. Mais ils le font. Et la sentence avec Dieu, c'est la mort. Le roi, contrairement aux lois françaises et à nos chères personnes qui font respecter la loi, ne voit pas tout. Mais Dieu voit tout et connaît tout. Donc, il jugera forcément. Jésus, dans cette parabole, il veut insister sur le fait que oui, il est bon. Oui, il peut bénir. Et il peut bénir même au-delà de ce qu'on pense. Mais en même temps, il est juste. Si on replace un peu l'histoire, cette parabole dans l'histoire, cette histoire fait écho dans la tête des gens. C'est l'histoire, on a un moins 4 avant Jésus-Christ, et on a les Hérode, Hérode le Grand, le type qui était à la naissance de Jésus, enfin pas avec Jésus à la naissance, pendant la naissance de Jésus, et c'est lui qui va faire tuer les enfants. Vous voyez, à tous les enfants de 2 ans, et tuez-les. Ça, c'est Hérode. Hérode, donc, était une brute sanguinaire, était un homme très pourri et orgueilleux. Il méprisait le Sanhédrin, il détestait les pharisiens. Hérode a tué ses 2 fils aînés parce qu'ils étaient plus intelligents que lui et il ne voulait pas être ombragé par ses fils. Du coup, il est resté encore 3 autres fils. Celui qui allait hériter de la royauté, c'était son fils aîné. Il a fait un testament. Arrivé là, avant de mourir, il se prend de tête avec ce fils. Il met le 2e fils comme roi sur le testament. Donc, Hérode meurt. Le territoire est sous domination romaine. Donc, il faut que ce soit le gouverneur qui les place roi. Et ce n'est pas eux-mêmes, quelque part, qui se donnent roi. Du coup, le fils qui hérite du royaume par le testament va voir le roi pour se faire, enfin va voir le gouverneur, pardon, pour qu'il le mette roi sur ce territoire. Et ce Archélaüs, je suis désolé pour le nom, cet enfant, il va aussi reproduire les mêmes bêtises que son père. Il va aussi, lors d'une Pâque, égorger tous les gens parce qu'ils vont un peu se révolter, justement, contre le mauvais traitement qu'ils subissent. Et il va les égorger aussi. Après, il va placer des gens pour veiller au royaume. Il va s'en aller voir le gouverneur pour se faire instaurer roi. Son frère, qui est aussi un Hérode, Antipas, qui n'est pas mieux, c'est lui qui fera décapiter Jean-Baptiste. M'a voué ça dans Matthieu, je ne sais plus combien, je crois y avoir noté, 14. Voilà la Hérode, les Hérodes. Voilà à quoi se compare Jésus. Jésus se compare à des grosses brutes, à des gros méchants. C'est assez surprenant quand même. Jésus a raconté cette parabole, je répète, pour montrer que le règne de Dieu n'allait pas se manifester tout de suite et qu'il fallait œuvrer, qu'il fallait trafiquer en attendant. Mais lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des personnes qui ont pris part à son royaume? Les Juifs avaient l'image d'un Jésus qui allait revenir pour les libérer justement des oppresseurs, des Romains et de tous ces mauvais. Ils attendaient un bon Jésus. Donc quelque part, quand Jésus leur parle de ça, ça leur fait bizarre. Jésus veut leur remettre les idées en place. Il veut leur dire clairement, oui, je suis bon. Oui, je peux vous bénir. Mais ne prenez pas pour un imbécile. Je jugerai. Je suis juste. L'amour va avec la justice. Et ceux qui prennent part à mon royaume, je leur dirai, bon et fidèle serviteur. Et les autres qui ne veulent pas que je sois maître sur eux, roi sur eux, je vais les juger. Et on va les égorger. Bon, c'est un petit peu de mort. Hein. On trouvera le même type de mort avec Élie, justement quand il va égorger les prophètes de Baal. Il va dire au peuple, apportez-les et égorgez-les. C'est Élie qui égorge. On a à peu près la même procédure. On a souvent en plus comparé Jésus avec Élie. Et Jésus veut réellement les interpeller. et veut nous interpeller à travers ce texte, si on lit bien dans son contexte, à savoir qu'il est juste, mais il est aussi amour, et il veut nous bénir. Bientôt, Jésus reviendra. Jésus, qui est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu, qui est venu nous faire entrer dans sa maison, qui veut nous faire prendre part à sa maison et veut marcher avec nous. Il veut que nous le connaissions mieux. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Bientôt, Jésus reviendra et discutera avec les personnes qui ont pris part à son royaume et fera un bilan. Il est tristement probable que nous soyons dans la même catégorie que le troisième, qu'on n'a pas trafiqué comme il l'aurait voulu, et qu'on connaît mal Jésus. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour dire « je vais trafiquer ». Bientôt, Jésus reviendra. Il discutera avec les gens qui n'ont pas voulu de lui comme roi. Jésus sera juste et les mettra hors de son royaume, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bientôt, Jésus reviendra. Mais nous ne savons pas quand. Alors, maintenant, mettons toute notre confiance en Dieu. Plaçons toute notre vie, donnons toute notre vie à Dieu et faisons-lui confiance. Et si nous voulons qu'il nous dise « bon et fidèle serviteur ». Je vous laisse avec ces paroles, je vous laisse les méditer. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour le royaume de Dieu ?